un peu plus de deux ans, en mars 2017, était votée en France une loi unique au monde, la loi sur le devoir de vigilance. Une réponse à la mobilisation qui avait suivi le drame du Rana Plaza, cet accident industriel qui avait causé la mort de 1138 ouvriers et ouvrières du textile. C'était en 2013 au Bangladesh. Aujourd'hui, le journaliste Olivier Petitjean tente de faire un premier bilan de cette loi dans son ouvrage intitulé « Devoir de vigilance, une victoire contre l'impunité des multinationales » paru aux éditions Charles Léopold Mayer. Marguerite Caton l'a rencontré.
Donc la loi elle a été adoptée formellement en 2017. En 2018, les entreprises concernées, c'est-à-dire quelques centaines de grandes entreprises françaises ou implantées en France, devaient publier ce qu'on appelle un plan de vigilance. Et à partir de cette année, la société civile, les syndicats, toute personne impactés par leurs activités, avaient la possibilité de d'abord les mettre en demeure sur le contenu de leur plan de vigilance et éventuellement de saisir un juge. Donc là, on est vraiment en plein dans ce processus parce que depuis le mois de juin, il y a eu 5 mises en demeure au total dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance. Et dans les jours qui viennent, on va probablement voir les premières saisies formelles de la justice.
Pour quelles entreprises ?
Alors les 5 qui sont concernées, donc il y a deux procédures qui visent Total pour deux raisons différentes. La première, c'est une procédure initiée par les Amis de la Terre et Survie et des ONG en Ouganda au sujet des activités de Total dans le pays. Total est en train d'ouvrir un champ d'extraction de pétrole et de construire un oléoduc qui occasionne à la fois des risques pour la biodiversité et des déplacements de population. Donc c'est autour de ces enjeux-là. Et le deuxième qui cible Total est beaucoup plus général. En fait, c'est dans la lignée de tous ces procès qu'on voit aux États-Unis ou dans d'autres pays de collectivités locales sur l'enjeu climatique contre les multinationales pétrolières en leur disant « vous ne faites pas assez pour le climat, même vous retardez toute action climatique ». Donc c'est une procédure qui pourrait bientôt être initiée par un groupe de collectivités locales. Je pense qu'il y en a 14 associées à des ONG. Ensuite, il y en a une effectivement qui cible EDF. C'est des communautés locales au Mexique qui se plaignent d'avoir été évincées de leurs terres traditionnelles pour construire des grandes éoliennes qui alimentent en électricité les usines de multinationales au Mexique, notamment les multinationales nord-américaines. Et on a deux autres procédures encore un peu différentes qui visent plutôt les questions de droits syndicaux. La première vise Téléperformance, qui est une entreprise qui gère des centres d'appel pour beaucoup de grands noms comme Orange, Uber, Apple. Et la deuxième vise une entreprise encore moins connue qui s'appelle XPO, qui est une entreprise de logistique qui fait en fait des camions de la logistique. Donc c'est vraiment sur les droits des travailleurs dans ces deux entreprises.
Revenons un peu en arrière. Vous insistez beaucoup, Olivier Petitjean, sur le processus inédit d'élaboration de cette loi de 2017.
Effectivement, c'est une loi un peu unique en son genre en France parce que en France, c'est très rare que des députés arrivent à non seulement faire examiner une loi à l'Assemblée nationale, mais en plus réussissent à la faire adopter. Et donc c'est vraiment un exemple de loi qui d'abord a été, il y a eu tout un processus de mûrissement, disons, au sein de la société civile. Ils se sont rendus compte que le droit existant n'était vraiment pas adapté et même était précisément un peu construit pour éviter que les grands groupes, les sociétés mères soient mises en cause devant les tribunaux. Lors des élections de 2012, il y a un peu comme on a vu en 2017, une vague de nouveaux députés qui voulaient se saisir de nouveaux sujets. Donc il y en a qui sont saisis de ce sujet de la responsabilité juridique des multinationales, qui ont travaillé avec la société civile. En fait, c'est un travail sur 10 ans presque qui a eu lieu avant même que la loi soit présentée à l'Assemblée nationale. Mais cette loi, elle est vraiment issue de l'expérience de la société civile. C'est vraiment l'exemple en fait de ce qu'une loi, dans un idéal démocratique peut-être, devrait être. Une loi qui finit par être adoptée malgré les réticences, voire les oppositions de certains intérêts établis, mais qui répond vraiment à un impératif, en tout cas éthique, important.
Venons-en au texte lui-même promulgué au mois de mars 2017. C'est un texte très bref, crucial parce qu'il arrive à délimiter le périmètre d'une multinationale et à imposer aux multinationales de préserver les droits humains, les libertés fondamentales et l'environnement. Alors, c'est extrêmement ambitieux, non ?
C'est exactement le type d'intervention qu'il fallait. Quand on voit une multinationale, il y a une sorte de hiatus un peu étonnant entre la réalité économique de ce qu'est une multinationale. On pense à Total, à Sanofi, Orange, Apple. Donc d'un côté, c'est clairement délimité. On sait que quand Total vous apporte de l'essence à la pompe, on sait que c'est Total qui est responsable de cette essence. Mais d'un point de vue juridique, c'est totalement différent. En fait, c'est totalement éclaté. Donc il y a des sociétés distinctes, voire il y a des sous-traitants qui produisent certains téléphones Apple ou qui s'occupent de stations-service pour Total, etc., etc. Et donc d'un point de vue juridique, c'est très difficile, voire impossible, de remonter, par exemple, quand on constate des faits potentiellement problématiques dans une filiale en France ou à l'étranger, de remonter jusqu'à la société mère. On en a eu l'exemple avec l'explosion d'AZF en France en 2001 à Toulouse. Donc c'était une filiale de Total et jusqu'à ce jour, il a été très difficile de remonter jusqu'à Total du point de vue de la responsabilité juridique. Évidemment, quand il s'agit d'une filiale au fin fond de l'Afrique, c'est encore pire. Et donc l'idée de cette loi, c'était vraiment de renouer ce lien d'un point de vue juridique entre la multinationale, telle qu'elle est dirigée depuis Paris, depuis New York ou autre, et la réalité de son influence tout autour de la planète, aussi bien dans ses filiales que chez ses sous-traitants, y compris au Bangladesh, quand ce sont des ateliers de textiles qui fournissent les enseignes de grande distribution en France, y compris en Afrique, quand c'est une filiale de Total qui forte du pétrole.
L'outil majeur qui est apporté par le texte, c'est le plan de vigilance. Chaque société doit en établir un, le mettre en œuvre. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'efficacité de ces plans? Comment ils se sont élaborés entre 2017 et 2018 concrètement?
C'est vrai que la première vague de plans de vigilance, donc publiée en 2018, et la deuxième vague de plans de vigilance publiée en 2019, était assez décevante, au sens où souvent les grandes entreprises se sont contentées de rappeler ce qu'elles faisaient déjà, qu'elles avaient mis en œuvre tel programme, telle politique, telle charte éthique, tel code de conduite à destination de leurs fournisseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette loi, tous ces instruments qui jusqu'à présent étaient quand même un peu... Je dis pas qu'ils avaient aucune valeur, mais ils étaient un peu en l'air parce qu'on savait pas très bien quel était leur statut juridique, qui contrôlait, il y avait pas de
responsabilité éparpillée.
Voilà. Là, maintenant, et tout de suite, comme c'est inscrit dans la loi et que derrière, tout au bout de tout un processus, il y a quand même la possibilité qu'un tribunal vienne examiner tout ça. Et donc, ça donne tout de suite beaucoup plus de poids à tout ce qui a été fait par les entreprises. Et la procédure dont je parlais contre Total qui est en cours et que très prochainement il y aura une saisie du juge très probablement. Justement, on est vraiment dans ce cas de figure où Total dit oui, on a mis en place ce plan d'action et les ONG en face disent oui, mais sur le terrain, on a des témoignages qui montrent que ça marche pas. Donc c'est vraiment, on entre vraiment dans le vif du sujet et c'est ça qui va changer la donne effectivement.
Est-ce que cette législation française, quand elle est adoptée au mois de mars 2017, elle va faire des émules ensuite dans le monde?
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que dans tout le débat sur cette proposition de loi, à l'époque où c'était une proposition de loi, il y a eu cet argument qui revient toujours dans ce domaine de la part du gouvernement et des milieux économiques qui dit « bon, on peut pas faire ça juste au niveau français, on va se tirer une balle dans le pied, on va nuire à notre compétitivité, etc. » Et là, en l'occurrence, le contre-argument, c'était que justement, au contraire, la France pouvait jouer un rôle pionnier et même accélérer le processus en cours dans d'autres pays. Parce qu'évidemment, cette problématique, elle n'est pas du tout typique à la France. Plusieurs pays européens, maintenant, envisagent ouvertement d'adopter une telle loi. En Suisse, il va y avoir l'année prochaine un référendum citoyen pour adopter une loi très similaire. L'Allemagne est en train d'envisager de rédiger une loi de ce type. La Finlande, le Luxembourg l'ont inscrit au programme de leur nouveau gouvernement récemment élu. Et maintenant, il est même question qu'il y ait une directive européenne en ce sens qui emmène même les plus récalcitrants dans la même démarche et qu'il y a un peu une approche cohérente au niveau européen.
De l'Union européenne
du coup. En dehors de l'Union européenne, il faut mentionner, en ce moment même, à Genève, au siège de l'ONU, il y a une négociation en vue d'un traité international qui introduise des dispositions juridiquement contraignantes pour les multinationales du point de vue de leur impact sur les droits humains. Là encore, il y a beaucoup d'opposition, mais on peut voir que c'est un processus ouvert et que le fait que la France ait adopté une loi, ça a vraiment été un moment où on a mis un pied dans la porte et où ça a ouvert beaucoup d'espace dans d'autres pays européens, même au niveau international.
Le journaliste Olivier Petitjean au micro de Marguerite Caton. Je rappelle le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Charles-Léopold de Mayer, Devoir de vigilance, une victoire contre l'impunité des multinationales.